De quoi il parle, ce film?
Alors, c'est l'histoire de... On commence avec deux hommes qui se retrouvent, qui ne sont pas vus depuis 25 ans. Ils s'étaient connus en colonie de vacances, voilà. Et ils partent tous les deux à la recherche du troisième acolyte de l'époque. Ils se retrouvent, donc ils sont parisiens, ils se retrouvent en route pour Grenoble. Arrivés à Grenoble, ils ne trouvent pas la personne qu'ils cherchent. En revanche, ils trouvent sa femme. Ils kidnappent sa femme. Et voilà, il s'ensuit cette aventure, en fait. C'est ce Paris-Grenoble avec deux personnages, dont un extrêmement drôle, qui a des mimiques formidables. Et c'est un film rigolo quand même, parce qu'il nous... Comment dire? Il prend pas de pincettes avec le spectateur. On a plein de plans qui se suivent comme ça, c'est extrêmement beau, mais souvent on nous donne pas la clé. Si tu veux, par exemple, le moment où il décide de kidnapper la femme, mais on ne sait pas du tout pourquoi. Enfin,
ça me fait penser aux Valsoises un peu pour l'esprit, enfin, je sais pas, ce côté de type en vadrouille qui kidnappe des gens et un côté un peu. Potes qui font des blagues, enfin, c'est comme ça que je pense.
Bah, c'est-à-dire que là, on ne sait pas du tout si c'est de l'ordre de la blague ou de l'ordre du truc sérieux, parce que il y a vraiment une part de mystère qui n'est pas du tout élucidée à la fin du film. Mais sans être un film à mystère. Enfin, c'est simplement que le film, il est comme une sorte de petite pellicule sur un moment d'une histoire, et puis on a accès à cette petite pellicule, on n'a pas accès au reste, et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est très joli, ça fait pas incohérent, si tu veux. Ceci parce que la photo est très bien réalisée et puis qu'on sent toujours cette volonté de faire les choses au pinceau, de manière très légère, comme ça. Et puis tant pis si on sait pas. C'est un peu comme les gens, enfin, il y a toujours un truc qu'on sait pas, quoi.
D'accord, donc du coup, ça fonctionne.
Ah, ça fonctionne très bien, je trouve. Enfin, ça fonctionnait très bien, j'ai un peu discuté en sortant de la salle avec d'autres personnes qui étaient pas du tout contente du film, mais ouais, moi je me suis plu à regarder ce film, vraiment.
D'accord, et bien, chers auditeurs, si jamais vous avez l'occasion, ça s'appelle donc Double Messieurs, et c'est signé Jean-François Stéphane. Et lui,
parce que d'un côté il y a la vie d'Abraham à la Combine, qui est une Combine, et c'est très drôle, tout ce qu'il y a de très cérémonieux dans l'école, on voit des professeurs un peu perdus, qui ne comprennent pas du tout pourquoi. Voilà. Et c'est aussi l'école où des amitiés se créent, des groupes très fraternels, et aussi des scènes très drôles. Et puis ce que j'ai préféré, c'est les scènes tournées en Écosse.
J'espère que c'est également votre cas, chers auditeurs. Qui, ce matin, était projeté, effectivement, son film monte là-dessus, était projeté à l'auditorium de Lyon, accompagné à l'orgue, s'il vous plaît, pour un moment de tension assez inattendu. Enfin, je pense tout de suite la couleur, mais. Peut-être avant ça, Marie, est-ce que tu peux nous résumer vite fait le scénario célébrissime de cette grande réussite d'un Roy Blake?
Oui, alors c'est un Roy Blake qui part en ville pour une fortune, pour décliner sa famille qui est loin de la ville, et donc il envoie avec ses familles de colonie des bijoux, des lettres, et en fait, et à gagner des sous, et pour gagner des sous, une grosse somme, il va essayer de dire aux acteurs, de faire un gros coup de pied, qu'il va trouver un bon ministère pour monter les billets et les billets.
Alors pour les monter par la façade, on va quand même préciser.
Par l'extérieur, et donc on va trouver des pistes de passants précieux, et donc c'est pareil, ben, l'autre qui va faire ça, mais évidemment,
parce que alors c'est tu dis un quart du film, c'est au moins un tiers, c'est une scène qui dure c'est vraiment une grosse partie du film où on a cette ascension de l'immeuble étage après étage, gag après gag bien sûr, mais pour les gens qui comme moi seraient par exemple au studio Vertige, se paient quand même quelques sueurs froides, c'est assez terrible, on s'attend vraiment à tout sauf à un tel degré de suspense dans ces comiques muets qui nous ont tous habitués à un registre beaucoup moins tendu en fait. Et Rod Lloyd joue extrêmement bien de tout ça. C'est, oh oui, il parvient à jouer avec le nerf avec une. Cet astre-là, c'est aussi un peu une poésie. d'abord, bien sûr, la rencontre célébrissime de deux monstres secrets du cinéma, Robert De Niro et Al Pacino, qui se retrouvent enfin à l'écran. Alors, ils étaient tous les deux à l'affiche du Parrain 2, mais sans jamais vraiment se rencontrer. Ici, le premier, Robert De Niro, est le chef d'un gang de braqueurs, un certain Neil McCauley, tandis que le second est lui, le chef des policiers, et il s'appelle Vincent Hanna. Le film raconte vraiment la lutte de ces deux personnages, c'est un véritable corps à corps. Alors je reviendrai sur cette expression parce que c'est donc ils sont jamais vraiment en présence, mais on a vraiment une impression de lutte entre les deux personnages, deux personnages qui se consacrent entièrement à ça. D'un côté, McCauley, homme sans aucune attache, va tenter un dernier coup avant de partir en Nouvelle-Zélande dans une retraite de gangster, on va dire, un dernier coup retentissant où il va faire le casse d'une banque. De son côté, de l'autre côté, Vincent Hanna, donc une vie personnelle complètement atrophiée, se concentre exclusivement sur la traque de ce criminel. Et on est vraiment en présence de deux personnages qui, entre guillemets, ne sont pas là où ils sont par hasard. C'est pas une question de descente aux enfers, de mécanisme qui fait qu'un personnage est entraîné dans le banditisme ou se retrouve entraîné dans une espèce d'aventure. C'est pas un film noir à proprement parler, parce qu'on a vraiment des personnages qui sont uniquement définis et destinés à leur traque respective. Ces traques qui, du coup, vont les opposer tout le long du film. Quelque chose qui se voit bien, par exemple, dans leur maison. Je pense à une scène où McCauley rentre chez lui et il est dans une immense maison qui surplombe Los Angeles et qui n'a pas eu le temps de meubler, donc une immense maison vide avec juste un pistolet posé sur une table. Et ce personnage, donc Robert De Niro, contemplant la mer par la fenêtre. À l'inverse, Vincent Hanna, il y a cette maison où il y a sa femme et sa belle-fille, mais où en fait fait que la traversée et toute cette maison lui est complètement étrangère. C'est vraiment des personnages qui, une fois de plus, sont définis par cette traque. Et comme je disais, il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de descente aux enfers. Toute l'intrigue naît des petites erreurs de chacun de ces deux monstres de rigueur qui suivent leur course de façon millimétrée, mais qui de temps en temps s'en écartent un tout petit peu. Et c'est ce microscopique écart, ces tout petits imprévus qui vont faire l'intrigue. Comme lorsque McCauley s'adjoint les services d'un homme de main qui va faire dérailler un premier coup, et c'est la première scène du film, et on ne se doute pas que cette toute petite erreur va aussi provoquer la fin du film. Bon, je ne vous raconte pas tout, et je parlais tout à l'heure d'un corps à corps un peu paradoxal entre les deux personnages, parce que tout au long du film, on a vraiment l'impression que c'est un bras de fer permanent. Dans chaque plan, il y a cette espèce de tension entre les deux personnages, et pour autant ils ne sont jamais ensemble à l'écran. Ils n'apparaissent, dans les quelques fois où ils apparaissent sur le même plan, il y en a un des deux qui est flou et de dos, mais en tout cas on n'a jamais vraiment l'image des deux acteurs en même temps sur le même plan, et tout est construit autour de l'opposition entre ces deux immenses acteurs. Entre autres, une scène centrale où ils se retrouvent dans un café, filmés sans cesse en champ contre champ, et Michael Mann disait lui-même que ça aurait été une erreur totale qu'à un seul moment du film, ils soient représentés tous les deux en même temps. On a vraiment ces deux personnages qui mangent l'écran, chacun son tour, et tout est complètement polarisé par leur opposition, et ça donne un ensemble d'une extrême densité, on va dire, entre oui, c'est cette tension permanente entre les personnages. Tension qui est nourrie par les images de Los Angeles, très très bleues et électriques, plus bleues et électriques au fur et à mesure que le film avance, avec entre autres la fin du film, une scène d'anthologie sur le tarmac d'un aéroport. J'en dis pas beaucoup plus, mais on a vraiment la ville comme une espèce d'environnement froid où ces deux monstres vont s'affronter. Je parlais de scènes d'anthologie, il y a un certain nombre de ces scènes, et absolument incroyable. Michael Mann montre vraiment une minutie d'horloger dans sa réalisation et une maîtrise absolue de chacun des plans, de chacune des scènes, et un certain nombre de scènes sont chorégraphiées à l'extrême. La scène du casse de la banque, qui est une scène qui se termine en fusillade à travers les rues de Los Angeles, dont le tournage a duré à peu près 2 semaines, je crois. et où on voit bien que tout est complètement millimétré et pendant un quart d'heure les planches enchaînent de seconde en seconde et c'est vraiment époustouflant de maîtrise. Enfin, le spectateur est complètement emporté d'une main de fer par le réalisateur. Il y a un rythme complètement implacable qui s'empare de nous et qui nous lâche plus pendant 2h30. Ce rythme est aussi marqué par la musique, des musiques soit des cordes assez modernes ou des musiques électroniques, en tout cas qui rendent bien l'impression que tout au long de ce film, il y a une pulsation sourde de la ville qui se cache derrière l'image et qui maintient une tension, une espèce de... Oui, vraiment un rythme très très sourd et très 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 grave et qui contribue extrêmement bien à toute l'ambiance du film. Et puis enfin, bon, il y a ce face à face, donc peut-être les deux plus grands acteurs américains, De Niro et Pacino. Leur jeu se passe tout simplement en mots, c'est vraiment du pur génie et ça fait de ce film un film à voir de toute urgence, et vraiment l'un des plus grands thrillers que je puisse avoir vu.
Dans un pensionnat pour jeunes filles, filles d'officiers en Prusse, enfin un truc très pas cool en termes de l'ordre et de la discipline, mesdemoiselles, vous êtes nées pour être les mères de soldats. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'ambiance comme ça. Avec un casting exclusivement féminin, puisque c'est un pensionnat de jeunes filles, les personnes de femmes, etc. Et ce film a la particularité d'être l'une des premières romances lesbiennes explicites au cinéma. Curieusement, a été censuré en 1933 en Allemagne, on se demande pourquoi. C'est un film qui m'a énormément plu. Il faut savoir que je l'ai vu dans une version pas restaurée. C'est le seul film du festival que j'ai vu en pas restauré, donc avec les petites mouches, le petit trait au milieu, la rayure, tout ça. Et puis, des sous-titres d'époque, alors c'est une politique de sous-titres un peu différente à l'époque, c'est un peu comme dans le muet, donc on sous-titre essentiel. Le reste, bon, les nuances, la subtilité, tout ça, bon, est-ce que c'est très grave?
Donc c'est pas grave, t'es presque germaniste.
Oui, voilà, donc ça allait. Mais le mec derrière est en train de gueuler, genre, ah, j'ai oublié les sous-titres. Non, c'est des sous-titres faits par Colette en 1930, désolé. Non, à part ça, c'est vraiment un très beau film. Alors, il y a pas mal de reliquats un peu du muet dans la manière dont c'est filmé, avec des personnages qui surjouent la grosse expressivité avec des gros plans et tout. Mais. Ça rend vraiment bien et surtout la grande majorité du casting en fait sont des vrais pensionnaires allemandes qui n'étaient pas du tout actrices et voilà, elles sont mélangées avec des vraies actrices pour le coup et ça crée une espèce de meute de jeunes filles comme ça dans le film qui ont une énergie et une menace toute déployée absolument charmante à regarder comme ça pendant une heure et demie. L'histoire est centrée sur une pensionnaire Manuela qui tombe amoureuse de l'une de ses professeurs qui est gentil avec elle que les autres sont très grandes et sont très anciennes. Et voilà, c'est une belle histoire bien portée par des interprètes pour beaucoup de fraîcheur. C'est un film qui m'a énormément plu.
D'accord, et bien si l'occasion se présente, et j'imagine que ça n'arrivera peut-être pas si tôt, mais il faudra aller voir Métier ni l'uniforme, les jeunes filles en uniforme, c'est ça en français. La réalisatrice
Léontine Sagan, comme son nom ne laisse pas supposer qu'elle est autrichienne.
Voilà, vous savez tout, chers auditeurs. Et on continue tout de suite, on reste avec toi, Marie, puisque tu étais à la séance de clôture du Festival Lumière et tu as vu, donc, outre Thierry Frémaux et Christopher Doyle bourré, tu as vu In the Mood for Love, le grand chef-d'œuvre de Wong Kar-wai. Alors parlons peut-être plutôt du film que de toutes les paillettes qu'il y a pu avoir autour ce soir-là.
Bon, c'était pas vraiment des paillettes, hein. C'était pas glorieux, glorieux ce qu'on a vu. Heureusement que le film après en valait vraiment la chandelle.
Alors justement, il en valait la chandelle, qu'est-ce qu'il raconte peut-être réellement pour les plus incultes de nos auditeurs? Et puis, à quel point c'est à bouleverser Marie, parce que ça ne peut pas en être autrement.
Bon, tu vas arrêter tout de suite ce snobisme de classe, et je vais résumer le film pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas. Alors l'histoire, ça se passe à Hong Kong en 1962. Ce sont deux couples qui emménagent simultanément dans le même immeuble chez des logeurs. Il y a le couple des Chang et le couple des Cho. Et c'est la manière dont M. Chang et Mme Cho vont découvrir que leurs conjoints respectifs ont une liaison. Et ça raconte la manière dont ils deviennent amis, proches, intimes. C'est très, très choquant comme histoire. C'est un film qui est vraiment beau. C'est un film qu'il faut absolument, absolument, absolument voir. L'histoire a l'air d'être un peu Marie-Vaudesque, mais non, on sait quand même Marie-Vaud, c'est nul. Et le Mood Warlock, c'est génial. C'est filmé avec énormément de subtilité. C'est, en fait, ce film, c'est un peu une expérience de chimie, quoi. De biologie, c'est... Mais de biologie amoureuse, on met deux individus ensemble, comme ça, le réalisateur les met ensemble, et on observe comment ça interagit, comment les corps se frôlent dans ce couloir de l'immeuble qui est extrêmement étroit, dans ce petit escalier où il passe quelques fois par jour. Et c'est un film qui fonctionne énormément sur la répétition des mêmes scènes qui reviennent avec le même air musical qui est joué, qui est extrêmement entêtant comme ça, la valse, la très fameuse valse, et qui contribue à cette ambiance un peu planante, tu vois, un genre de rêverie amoureuse. On ne voit jamais les deux conjoints, et c'est très bien parce qu'au fond, on s'en fiche vraiment, ils sont complètement hors champ, ils ne sont pas hors champ pour attirer l'attention, ils sont hors champ pour eux, parce qu'on n'a rien à faire. Et tout le film a cette ambiance particulière, ça se passe toujours dans des extérieurs, dans des extérieurs de nuit, des intérieurs, un peu comme dans Universe of Life. Et c'est vraiment une ambiance très rêveuse. Et on comprend que la grosse partie du film est finie au moment où M. Chang déménage à Singapour. Et là, c'est la première fois où on voit un plan du ciel avec un palmier qui se retrouve dans Singapour. C'est le moment un peu où on sort de cette rêverie amoureuse où on avait été pris comme ça pendant une bonne heure et quart dans le film. Vraiment, c'est un film qui tente le temps.
Et bien, dis donc, ça donne envie hein, pour ceux de nos auditeurs qui donc l'auraient pas vu. Sachez qu'il va repasser à l'Institut Lumière le 5 novembre prochain, le dimanche du retour des vacances. Donc, faites en sorte que votre train arrive avant 14h. Pas mon cas malheureusement d'ailleurs. Et puis oui, bah, c'est bien parce que ce que tu nous dis résume un petit peu tout le cinéma de Wong Kar-wai, cette espèce de douceur enveloppante, la beauté des couleurs, ses intérieurs et toutes ces scènes de nuit, ces personnages qu'on approche autour desquels on tourne, qui se frôlent, cette espèce d'électricité qu'il peut y avoir dans toutes les images, dans l'air, tout ça, et puis c'est pas plus mal de finir avec le plus grand succès de ce réalisateur pour terminer ce festival, donc, chers auditeurs.